Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Et on fait un nouveau point sur sur l'activité, l'actualité économique. Ça commence très bien cette semaine. Avec vous, Claire Sergent, bonjour.
Ah oui, en pleine activité, c'est ça.
Voilà, exactement. C'est un peu trop tôt en début de semaine, en pleine période estivale. La France semble impuissante à lutter contre la sécheresse, Claire, alors qu'elle se prépare à affronter sa quatrième vague de chaleur dans les prochains jours.
Ah oui, cette nouvelle période de canicule doit durer jusqu'au 15 août et elle inquiète alors que 57 départements sont en crise hydrique. Des restrictions concernent déjà la quasi-totalité du territoire. Pourtant, la France est en Europe l'un des pays qui reçoit le plus d'eau, mais elle est l'un des plus mauvais élèves quand il s'agit de la stocker ou encore de la retraiter, Sofiane Aklouf.
Oui, parce que 99% des eaux usées finissent dans les cours d'eau ou directement dans la mer à la sortie de nos 22 000 stations d'épuration en France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce traitement des eaux usées est sous-exploité. Veolia compte donc s'attaquer au problème. Le premier opérateur mondial de l'eau a annoncé vouloir équiper 100 stations d'épuration en France pour la réutiliser. Il s'agit d'eau non potable. Pour l'heure, 10 stations seulement disposent d'installations pour réutiliser cette eau. C'est donc une source sous-exploitée, notamment à cause de normes très strictes, nous explique Thierry Burlot. Il est le président du Cercle français de l'eau.
C'est quand même un peu paradoxal qu'on ne puisse pas aujourd'hui réutiliser ces eaux à partir du moment, bien sûr, où elles respectent les normes sanitaires. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Bretagne, on a des industries agroalimentaires qui consomment beaucoup d'eau et qui sont capables de les retraiter et de les mettre au seuil de potabilité. Et en France, on n'aurait pas le droit, à cause des autorisations sanitaires du ministère de la Santé, de les utiliser, ce qui est quand même un paradoxe. Alors qu'en Espagne, au Portugal, en Israël et dans tant de pays dans le monde, aujourd'hui, on produit des denrées alimentaires avec ces eaux recyclées. Donc la réutilisation des eaux, c'est une vraie solution qu'il va falloir apporter si on veut partager l'eau et l'économiser.
C'est vrai que dans d'autres pays, les terres sont irriguées avec de l'eau recyclée. L'Espagne tire profit de 14% de ses eaux usées, Israël 80%.
Pourtant, Sofiane, il y a des savoir-faire en France.
Oui, mais si on se retrouve cet été sans eau dans les canalisations d'une centaine de communes, c'est à cause d'un sous-investissement chronique. C'est le même principe que pour le réseau ferré, finalement. Parfois, les rails sont usés, il faut les entretenir. Et dans certaines régions, les infrastructures n'ont pas été renouvelées depuis l'après-guerre. Par résultat, le taux de fuite atteint 20%. Notre pays a donc pris beaucoup de retard. L'équipement des 100 stations d'épuration de Veolia permettra d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable par an. C'est la consommation d'une ville de 180 000 habitants, selon l'opérateur. C'est un bon premier pas, mais ça reste une goutte d'eau comparée aux plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau consommés chaque année en France.
Merci Sofiane. Avec ces vagues de chaleur à répétition, les incendies se sont multipliés, provoquant des dégâts considérables dans les forêts et de lourdes pertes pour les exploitants.
Ah oui, la Gironde, qui compte plus de 20 000 hectares de forêt, est toujours en vigilance rouge incendie depuis le 1er août. Les exploitants des forêts sont sur le qui-vive. Ils doivent attendre que le feu soit officiellement éteint pour tenter de sauver au plus vite le bois incendié. Laura Cambeau.
C'est une course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l'être. La filière bois de Gironde se tient prête à aller chercher le bois brûlé dans les incendies. Éric Constantin est le délégué régional de Nouvelle-Aquitaine de l'Office national des forêts.
À ce jour, sur les deux incendies, il est considéré à peu près 2,5 millions de mètres cubes de bois incendiés. Ça représente la moitié d'une année de récolte normale du massif des Landes de Gascogne.
Pour limiter les pertes, ce bois doit être récupéré avant d'être ravagé par les insectes et les champignons. D'une qualité inférieure, il pourra tout de même être utilisé pour faire des palettes de bois et de la pâte à papier. L'Office national des forêts espère avoir le feu vert des pompiers pour la mi-septembre.
C'est crucial de récolter ce bois tout en continuant à récolter du bois vert par rapport à la filière bois qui a besoin aussi d'être approvisionné en bois entre guillemets normal de façon à pouvoir faire face à ces carnets de commandes. La filière bois marche plutôt bien en ce moment. On a une forte demande.
Principal défi pour les exploitants des forêts, trouver la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à cette demande. L'ONF envisage de travailler avec des entreprises installées en dehors du massif, voire à l'étranger, pour récolter le maximum de bois.
Le gouvernement maintient son objectif de ramener le déficit public en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat. Les dépenses publiques diminueront de 0,3% en volume l'an prochain, affirme Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics dans les Échos. Des économies qui viendront des réformes que le gouvernement veut mettre en place, les retraites et l'assurance chômage. Chaque ministère est par ailleurs engagé à rechercher des économies dans son périmètre, affirme le ministre, qui chiffre à 8 milliards d'euros d'économies la fin progressive du quoi qu'il en coûte.
Il n'y a pas de plan B pour la fusion avec TF1.
Déclaration de Thomas Raab, le patron de Bertelsmann et le propriétaire d'M6 vendredi. Alors que le compte à rebours est lancé, il reste une semaine aux deux chaînes pour répondre à l'autorité de la concurrence qui refuse leur mariage. Pour le groupe allemand, l'enjeu est avant tout européen, Mathieu Pechberti.
C'est la dernière ligne droite pour TF1 et M6. Les deux groupes doivent remettre mi-août leur argumentaire pour justifier leur fusion auprès de l'autorité de la concurrence. L'enjeu, lui, prouver que la pub télé et digitale convergent et qu'elles ne formeront bientôt plus qu'un seul marché. TF1 et M6 jugent que leurs parts de marché, aujourd'hui dominantes dans la pub télé, sont en réalité bien plus faibles en comptant celles des GAFA dans le streaming et la vidéo à la demande. Il s'appuie sur la récente offre de Netflix avec de la publicité et l'achat des droits du foot par Amazon. L'antitrust note le début de cette évolution, mais a prévenu qu'il lui faudrait des faits incontestables pour changer sa doctrine. Pour le propriétaire de M6, l'allemand Bertelsmann, l'enjeu de la fusion avec TF1 est majeur. Si elle est acceptée par l'autorité de la concurrence française, il plaidera pour appliquer cette nouvelle donne dans tous les pays européens. Le groupe essaye également de consolider le marché aux Pays-Bas avec sa filiale RTL. Son patron Thomas Rabe plaide aussi pour marier RTL en Allemagne avec ProSieben.
Plébiscité en France où 63% des foyers en ont un. Le Weber, le roi du barbecue américain, voit son succès retomber.
Ah oui, avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, le commerce de détail souffre aux États-Unis et Weber voit ses ventes ralentir sur fond de mauvais résultats. Le titre a concédé près de 2/3 de sa valeur depuis son introduction à Wall Street il y a un an. À Sabrina Sadghi, Léo Dumas.
Après avoir flambé pendant les confinements, la demande pour les barbecues s'essouffle. Les ventes de Weber ont reculé de 7% au premier trimestre, ce qui a entraîné une perte nette de 51 millions de dollars pour le fabricant. L'entreprise basée dans l'Illinois met en cause l'inflation et un effet de change négatif. Elle se plaint aussi de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Arrivée fièrement à Wall Street il y a un an avec l'ambition de lever 800 millions de dollars, Weber a été contraint de revoir ses prétentions à la baisse puisque depuis sa capitalisation s'est effondrée de 3 milliards de dollars. Et Weber est pessimiste, un nouveau déclin des ventes est attendu au troisième trimestre. Son PDG a été poussé à la démission et face à cette crise de la demande, l'entreprise envisage aussi des licenciements et prévoit de resserrer ses stocks.
La Chine veut poursuivre ses exercices militaires près de Taïwan. Les tensions actuelles dans le détroit de Taïwan sont de la responsabilité du camp américain, affirme Pékin, qui avertit les Américains devront faire face à des conséquences graves. La Chine refuse d'ouvrir des discussions avec les États-Unis suite à la visite de Nancy Pelosi sur l'île. De son côté, la Maison-Blanche dénonce une réaction irresponsable et disproportionnée.
Y a-t-il un risque de dérapage? Quelle menace pour la production de semi-conducteurs? Nous en parlerons tout à l'heure à 8h15 avec Chi Chung-Bu, représentant de Taipei en France.
Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire, a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à Tokyo. Antonio Guterres demande l'arrêt des opérations militaires autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Donc Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Ils souhaitent que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse accéder à cette centrale.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30.